L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Christophe.
Bonjour Claire.
Alors on est ici dans un environnement assez extraordinaire. Tu es artiste, Christophe Clotte. Donc tu es artiste plasticien en résidence sur le domaine d'Abadie, Pays Basque, en haut des falaises. Qu'est-ce que tu fais ici?
J'ai été sélectionné pour faire une résidence donc, de création et de recherche à partir des éléments du lieu et à partir de ceux qui se trouvent ici sur place.
Artiste plasticien en résidence, ça veut dire que finalement on t'offre un espace-temps pour venir t'inspirer, pour créer plus tard, c'est ça?
Oui, voilà, c'est une période pendant laquelle on m'invite à travailler et avec des moyens, que ce soit financiers, matériels, un logement et donc un espace de travail.
Tu pourrais décrire là ce qu'on a sous les yeux, parce que c'est assez magnifique quand même.
Mais en fait, la résidence se déroule dans une ancienne maison. Sur le domaine d'Abadia, c'était une bâtisse qui était utilisée pour les activités agricoles du domaine et qui a été donc réhabilitée et où il y a les bureaux de l'association.
Quelle association ?
C'est Nekatoenea, c'est le nom de la maison. Et l'association a pris c'est le CPIE qui est l'association qui gère cette résidence. Et la partie vraiment artistique, le CPIE a une activité plus large que simplement artistique. Et la partie artistique a pris le nom de la maison, Nekatoenea.
Donc une ancienne ferme en fait.
Oui, c'est une ancienne ferme. Alors je ne sais pas si on peut dire oui, une ferme. On va dire ça va être plus simple.
Et alors du coup sur un domaine préservé au bord du littoral, géré d'une façon écologique et avec quand même des objectifs aussi de préservation, sensibilisation à l'environnement.
Oui, le domaine est un espace protégé. Donc avec tout un tas de dispositifs de protection, d'observation des espèces animales, végétales, avec des programmes de suivi, de choses comme ça. Et un système aussi de dispositifs de protection par rapport à la fréquentation et par rapport aux espaces du domaine.
Oui, parce que là, donc, on est sur un espace qui est assez joli et qui est très fréquenté, surtout pendant la haute saison. Mmh. Et du coup, tu disais, alors je reviens sur ce que tu disais juste avant, il y a des suivis d'espèces, il y a tout un travail de répertoriation de la faune, la flore. Et toi, justement, en tant qu'artiste en résidence ici pour quelques mois, tu prends le temps de t'imbiber de tout cet environnement et tu as participé à ces missions un peu de je sais pas comment on va dire, de sciences citoyennes peut-être, d'observation en tout cas.
Oui, c'est des programmes d'observation et de recensement, mais c'est des programmes qui sont plus larges, qui peuvent être plus larges que qui s'inscrivent dans des programmes plus larges d'observation, notamment sur l'ornithologie. J'ai participé à une capture bagage d'oiseaux. Il y a un suivi de reptiles où on observe l'évolution de la population, notamment de couleuvres. Il y a un suivi sur les orchidées, sur les papillons. Il y a un comptage, une estimation de la population et de la variété des espèces qui sont là. Et ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, de plus vaste, un programme d'observation qui est plus étendu, qui se coordonne avec d'autres stations d'observation. Une grande partie de mon travail, j'essaie de la développer de plus en plus à l'extérieur. Mais en gros, actuellement, je travaille sur... j'ai démarré un travail qui s'intéresse un peu à la géologie, mais je suis venu à la géologie par le vivant. J'ai commencé par m'intéresser à des blocs erratiques. C'est des blocs de rochers qui sont dans le paysage et qu'on repère assez facilement parce qu'ils ne sont pas de la même nature que le sol sur lequel ils se trouvent. Et du coup, ils ont posé question à l'humanité depuis déjà bien longtemps. Et c'est des blocs qu'on trouve au pied des Pyrénées et partout où il y a eu des glaciers. C'est des blocs qui ont été décrochés par l'érosion glaciaire, qui se sont posés sur le glacier ou emportés par le glacier. Et quand les glaciers sont fondus, ils se sont retrouvés à des dizaines de kilomètres de potentiel de leur lieu où ils ont été arrachés. Et du coup, ils ont une autre particularité, c'est que dans le paysage, ils sont posés. Et des blocs comme ça, qui peuvent faire plusieurs dizaines de tonnes, posés, là, on voit bien qu'ils ne sont pas émergents, ils ne sortent pas de la terre. Ils ont atterri, là. Et voilà, et ça m'a questionné parce que c'est des objets qui... minéraux, de la roche, hein, et à la fois, ils avaient un statut de par les rituels qui ont pu être... fait autour de ces rochers, de par cette singularité, ils acquièrent un statut de presque d'être, de corps, comme on pourrait parler d'un corps céleste. Et ça m'a intéressé. Et alors, il y en a pas mal qui ont servi de sépulture. Et certains ont servi de... Il y a des rituels qui ont été faits autour, notamment autour de la fécondité, autour de choses comme ça. Et ça a généré... en fait, on peut les reconnaître si on se promène dans les vallées pyrénéennes. Là, si on voit un gros rocher, par exemple, avec une croix plantée dessus, on peut être à peu près sûr qu'il y a eu un rituel autour de ce bloc et que l'Église catholique est venue mettre un peu sa marque parce que justement ces rituels ont été problématiques pour l'Église à un moment donné. On a des traces néolithiques. J'ai tendance à penser que les mégalithes ont un peu les mêmes statuts. Joue un peu le même rôle que ces rochers qui sont, eux, arrivés comme ça, et peut-être les mégalithes ont été déplacés, mais moi j'y vois une parenté. Alors je ne sais pas si c'est très scientifique ce que je dis, mais il me semble que justement cette matière vraiment du socle rocheux comme ça, pris comme un être, comme quelque chose qui dépasse sa matérialité, j'y vois une continuité, moi. Et du coup, oui, ils sont incarnés et à la fois, il y a déjà de telles couches qui se sont empilées. Je ne sais pas trop bien comment je vais aborder ça, mais évidemment, c'est une des premières choses qui m'est venue. En tête, faire quelque chose avec. Il y a toutes les histoires de sorcellerie aussi autour de ces falaises. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et en fait, je suis en train de chercher l'entrée. Pour dérouler le fil et arriver peut-être au jumeau, ça serait. Mais j'ai pas envie d'attaquer par ça. Ça me semble être le sommet de la montagne. Donc il faut commencer le chemin un peu plus bas.
Alors nous, on va commencer notre chemin. On peut rentrer voir un petit peu ton processus de création parce que là, donc on est à l'extérieur, on est dans ton jardin. Tu nous fais visiter ton atelier?
Mais là, on est dans la pièce de vie. un espace de cuisine. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Et puis, un petit salon où il y a quelques livres que j'ai amenés, une table, voilà. Et l'atelier est à l'étage. Il va falloir monter. Voilà, on se trouve dans l'atelier qui est assez lumineux. La qualité de la lumière est très belle, moi, je trouve, ici. Il y a des fenêtres de toit, des petites fenêtres de toit qui amènent une lumière zénitale, et puis deux petites fenêtres qui donnent vers l'océan. Donc c'est juste parfait pour travailler. Voilà, il y a une table au milieu où il y a tout un tas de choses, livres, feutres, dessins. Et il y a des cailloux. À la suite de ce travail sur les roches, j'ai commencé à travailler le côté sonore de la roche. En fait, dans le processus que j'ai suivi sur ces pierres en mouvement, je me suis rendu compte que le mouvement aussi a donné un statut particulier aux roches, aux objets, qui le fait de se détacher, de pouvoir les isoler, pouvait leur donner un statut particulier. Donc je me suis intéressé aux galets. Et à partir de là, notamment parce que j'habite pas très loin du Gave et que je me promène souvent sur les berges du Gave, et que là, il suffit de se promener, que ce soit là sur la plage de Galets ou sur les berges du Gave. Et là, en Galets, il y a toute la minéralogie du bassin versant dans le Gave et de la falaise sur la plage. Et même des galets sur la plage qui arrivent un peu d'ailleurs. Et donc ça m'intéresse aussi, d'un peu plus loin. Mais le galet, il a subi une érosion. Et sa forme, il y a une forme qui a apparu. Et là, si on le frotte, on sent bien qu'il a presque acquis une peau. Il y a quelque chose. Et le premier travail que j'ai fait avec ces galets, c'est de les casser. Ici, j'ai pas fait ça. Mais c'est pour replacer un peu mon travail dans un contexte. La première chose, c'est le geste un peu brutal et, j'allais dire, bête et méchant. C'est pas tout à fait bête et méchant, mais surtout pas méchant. Mais il y a eu comme une espèce de geste un peu premier, quoi, comme ça. On prend le galet et j'ai commencé par en casser. Et là, quand on casse un galet, la matière qui se découvre, c'est vraiment la structure et la matière même du rocher tel qu'il s'est décroché quand il est tombé et qu'il a commencé son voyage. Il y a une espèce de remontée dans le temps. On remonte au temps où il s'est décroché de son socle. Et ça, j'en ai fait des estampes. C'est-à-dire que j'ai utilisé ces galets que j'ai coupé pour j'ai ancré une face de la fracture, mis une feuille de papier, refermé le galet tel que je pouvais le faire, au mieux que je pouvais le faire, et pressé. Et ça donne des estampes, des impressions, et qui relèvent vraiment, absolument. Alors c'est ça qui a été un peu presque j'emploie magique, mais c'est pas le terme. En tout cas, très révélateur, c'est que toute la matière, toute la finesse du grain, de la structure même, de la roche apparaît à ce moment-là. Voilà. Et voilà pourquoi je me suis intéressé au galet. Et ensuite, j'ai continué à parler. Pour essayer de m'inscrire dans ce processus d'érosion, m'inscrire dans un... Et donc j'ai commencé à les frotter et à en tirer de la poudre. Et je les ai vraiment une pierre contre une autre pour en détacher de la poudre. Et cette poudre, je l'ai utilisée pour faire des sérigraphies. Et en utilisant la technique de la sérigraphie comme un phénomène de sédimentation. Vraiment, on prend la poudre et on la dépose couche par couche sur le papier. Comme un phénomène d'érosion, phénomène de sédimentation.
C'est vrai que dans la géologie, il y a différents types de roches, mais il y a des roches qui sont fabriquées par sédimentation au cours des millénaires. C'est un peu le cas ici, des schistes, des fliches, des falaises qui sont juste en contrebas de la maison où tu es en résidence. C'est l'accumulation de résidus au cours du temps qui ont fait que la roche s'est constituée, et c'est le temps après qui les défait petit à petit dans l'océan.
Oui, c'est ça. Et en fait, à partir de là, le fait de rentrer dans ce processus, de rentrer dans l'érosion de ces roches, a débouché sur un travail sonore, parce que forcément, il y a un effet sonore à frotter deux roches l'une contre l'autre. En fait, j'ai fait un instrument. J'avais ramassé une pierre sur laquelle je broyais mes poudres pour qu'elles soient les plus fines possibles pour pouvoir passer à travers l'écran de sérigraphie. Et cette pierre, il me semblait qu'elle sonnait. J'ai essayé d'en faire un dispositif et de l'amplifier. Voilà. Du coup, j'ai ramassé deux plaques de pierre parce que justement le flish génère des couches qui sont des strates. J'ai pu en récupérer deux qui sont plates. J'aimerais bien attaquer un travail de lithographie avec ça. Et avant de pouvoir faire un travail de lithographie, il faut générer un plan lisse et le plus plat possible. Je le fais en frottant ces deux pierres les unes contre les autres. Peut-être je peux commencer par ça. C'est des processus qui nous sont complètement inaccessibles en termes de temporalité. Ça se passe sur des milliers, millions d'années. Et comment les sentir? Mais comment faire pour... On voit bien que la science nous... Moi, j'aime beaucoup l'expertise scientifique. Ça donne une perception des choses. Mais je suis artiste. Et comment faire pour le ressentir peut-être avec... un autre pendant qui est pas forcément qui soit l'essence, quoi, qui soit pas forcément que de la raison, ou voilà. Donc c'est deux pierres avec de l'eau entre et voilà, et elles sont frottées, il faut les frotter circulairement pour essayer d'avoir le plan le plus... Déjà que la poudre s'arrache de la et ça génère de comme une pâte. Voilà. Bon, c'est un geste technique et voilà, et c'est ce geste technique un peu, enfin technique. Oui, c'est un geste technique que j'ai essayé de transposer dans l'instrument. Et là, peut-être, je peux essayer de... Donc, une pierre qui est assez longue, que j'ai trouvée comme ça. Moi, ce qui m'intéressait dans cette... dans cette chose, enfin dans ce travail, c'est vraiment de prendre les roches telles que je les trouvais. Et après, autour, je construis un dispositif d'amplification. Donc, il y a un micro-contact qui vient prendre les vibrations de la pierre. Et donc, j'ai ramassé d'autres pierres sur lesquelles je viens faire une friction. Alors, peut-être que j'ai commencé par... Quatre pierres, oui. Une ophite, un calcaire noir et deux silex, de formes différentes. Voilà. Que dire de plus?
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet. That's the remember.